Je voudrais que nous réfléchissions à la place de l'Église dans notre monde. Alors on peut aborder ce sujet très très vaste sous deux angles, soit la réaction du monde face à l'Église, soit la réaction de l'Église face au monde. C'est principalement cet aspect que j'aimerais creuser avec vous aujourd'hui. Dans certains pays, la société est clairement hostile au message de la Bible. Et là, l'Église n'a pas le choix, elle est obligée de vivre cachée pour sa propre sécurité. Mais dans un pays comme le nôtre, où la liberté de religion est un droit fondamental, l'Église a le choix. Nous pouvons choisir quel rapport nous voulons entretenir avec les personnes qui ne croient pas en Dieu. Nous pouvons choisir quel rapport avoir avec la culture, avec la philosophie, ou tout simplement avec les personnes, les individus. Et pour réfléchir sur le sujet, je vous invite à lire un texte dans le Lévitique, au chapitre 20, les versets 22 à 26. Vous obéirez à toutes mes ordonnances et à toutes mes lois, et vous les appliquerez. Ainsi, le pays où je vous mène pour que vous vous y installiez ne vous vomira pas. Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous, car c'est parce qu'elles ont commis toutes ces actions que je les ai prises en aversion. Aussi, je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous le donnerai à posséder. C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai mis à part des autres peuples. Faites donc la différence entre les bêtes pures et celles qui sont impures, entre les oiseaux purs et les oiseaux impurs. Et ne vous rendez pas vous-même impur par des bêtes, des oiseaux et tout ce qui se meut à ras de terre que j'ai mis de côté comme impur. Vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint. Et je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. Un texte qui surprend, surtout quand je veux aborder le rapport que l'Église peut avoir avec le monde. Un texte qui surprend, mais qui a son contexte, qu'il faut comprendre. Le peuple d'Israël a vécu l'esclavage en Égypte pendant des siècles, mais Dieu l'a finalement délivré en accomplissant de grands miracles. Il leur a aussi promis de les conduire dans un pays qu'il leur donnera pour eux et pour leur descendance. Mais ce pays, le pays de Canaan, est déjà habité par plusieurs peuples, des peuples qui ne croient pas en Dieu. Et Dieu promet donc à Israël de leur donner la victoire sur ces peuples, de leur donner ce pays, puis il leur donne tout un tas de lois qui doivent diriger à la fois leur vie spirituelle, leur vie sociale, leur vie commerciale et aussi leur pratique de la justice. Et notre texte fait partie de ces lois, il fait partie notamment des lois qui enseignent au peuple le rapport qu'ils doivent avoir avec les autres peuples, ceux qui ne croient pas en Dieu. Et en tout cas dans ce texte, le constat semble sans appel. Il ne doit pas y avoir de mélange entre Israël et les autres peuples. En effet, au verset 26, Dieu dit « Je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez ». Et au verset 23, « Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous ». Habituellement, quand on veut se rapprocher d'un peuple différent du nôtre, on commence toujours par s'intéresser à sa culture. Bien là, il ne doit pas y avoir de mélange culturel. Israël ne doit pas suivre les coutumes des autres peuples. Ça limite les échanges. Si on ne partage pas la culture ou les coutumes, en tant que bon français que je suis, je me dis qu'on peut toujours s'intéresser à nos gastronomies respectives, partager un bon repas. Un bon repas est toujours un moment fraternel, un moment d'échange, un moment de partage. Eh bien, même là, notre texte donne à Israël deux catégories différentes d'aliments. Ceux qui sont dits purs que l'on peut manger et ceux qui sont dits impurs qu'on ne peut pas manger. Ça complique quand même pas mal le partage d'un repas. on ne peut pas aller manger chez quelqu'un quand on a tout un tas d'interdits alimentaires et que la personne qui nous invite ne les connaît pas, ne les partage pas. Cette loi empêche au final le partage amical autour d'un repas avec les autres peuples qui n'ont pas ces interdits alimentaires. Qu'est-ce qui reste ? Il reste ce qui transcende les cultures, ce qui transcende les frontières, l'amour, le mariage. On peut toujours se marier entre peuples pour se rapprocher. Eh bien, malheureusement, même là, d'autres lois qui ne sont pas dans ce passage interdisent à Israël le mariage avec les autres peuples. La consigne semble claire. Chacun chez soi. Aucun mélange possible. Et les lois données sont faites pour empêcher toute tentative de rapprochement. Mais pourquoi ? Pourquoi Dieu demande à son peuple de ne surtout pas avoir de lien avec les autres ? En tout cas, dans ce texte. Pour avoir la réponse, il nous faut regarder autour de notre texte, lire les autres lois qui se trouvent avant et après. Et on se rend compte que toutes les lois données à cet endroit ont pour but de garder le peuple pur et saint. En fait, Dieu ordonne au peuple d'avoir un cœur entièrement tourné vers lui, vers Dieu et sa volonté. Dieu veut que le peuple l'aime de tout son cœur. Et pour l'aider à faire ça, Dieu demande au peuple de ne pas se mélanger aux autres peuples parce qu'en ayant des rapports avec les étrangers, les Israélites pourraient penser à autre chose qu'à Dieu, à d'autres dieux en tout cas que le nôtre. Ils risquent de découvrir d'autres coutumes que Dieu ne voudrait pas. Ils risquent de découvrir des pensées, des manières de penser que Dieu n'aimerait pas. Et pour les préserver, Dieu leur ordonne de n'avoir aucun lien avec les peuples qui les entourent. Parce que les voisins d'Israël n'aiment pas Dieu et ne font pas sa volonté. Voilà une réponse possible. J'en reviens à notre question du départ. Quel rapport devons-nous avoir avec le monde qui nous entoure et qui ne croit pas en Dieu ? Eh bien, nous avons ici une première réponse possible. Pour vivre heureux, vivons cachés, vivons séparés. Comme ça, nous pourrions passer une vie entièrement consacrée à Dieu sans aucune perturbation extérieure. Mais dans ce texte, la vraie raison de tous ces interdits, c'est que l'homme doit mettre tous ses efforts à aimer Dieu, mais par ses propres moyens. Et si vous observez les religions où l'homme doit aimer Dieu par ses propres moyens, vous verrez que ce sont des religions avec beaucoup de lois qui isolent, qui séparent des autres, qui empêchent le mélange des peuples, comme pour Israël dans l'Ancien Testament. C'est une solution possible, mais est-ce que ça marche ? Dieu a proposé cette solution au peuple d'Israël, et si nous lisons toute l'histoire de ce peuple dans l'Ancien Testament, ben on se rend compte malheureusement que ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas ? Parce que l'homme n'arrive pas à obéir constamment. Nous avons malheureusement le mal en nous. Et malgré tous nos efforts et nos bonnes intentions et tous nos actes bons, on ne peut pas, par nos propres moyens, passer une vie entièrement tournée vers un Dieu qui, lui, est parfaitement bon. On en est incapable. Dieu a alors proposé une autre solution. Je vais vous lire juste un verset dans le Deutéronome, au chapitre 30, le verset 6. « L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants, pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être, et qu'ainsi vous viviez. » Ici, Dieu dit, vous ne pouvez pas m'aimer de tout votre cœur par vos propres efforts, parce que vous ne pouvez pas changer votre cœur qui est mauvais. Vous en êtes incapable. Alors c'est moi, dit l'Éternel, qui vais venir directement dans votre cœur pour vous aider à changer, à aimer et à faire ma volonté. Et Dieu l'a fait. Dieu a envoyé son Fils pour effacer le mal qui est en nous et qui nous séparait de Dieu. Il a fait le ménage dans notre cœur, puis il a emménagé. Il a envoyé son Esprit en nous pour changer notre cœur, pour que nous puissions aimer Dieu pleinement et à chaque instant. Et ça, ça marche. Mais ça ne répond toujours pas à notre question : quel rapport devons-nous avoir avec le monde ? Quand l'homme devait aimer Dieu par ses propres moyens, il devait se couper du monde. Mais maintenant que Dieu est venu en nous pour nous apprendre à l'aimer, est-ce qu'il faut toujours s'isoler ? Eh bien, c'est Jésus qui nous donne la réponse en Actes au chapitre 1. Il nous dit « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Lorsque l'homme doit aimer Dieu par lui-même, il doit se couper du monde, sans pour autant que ça marche. Mais lorsque Dieu vient dans le cœur de l'homme, l'homme doit alors au contraire aller dans le monde entier pour être un témoin, pour partager cet amour que Dieu nous donne. Il ne faut plus rester isolé, il faut sortir. Il ne faut plus exclure, il faut accueillir. Il n'y a plus de loi qui sépare, il faut partager. Il ne faut plus craindre celui qui est différent, il faut l'aimer. Voilà ce que nous devons vivre dans l'Église. Aller dans le monde, mais aussi savoir accueillir le monde. Maintenant, j'aimerais que nous puissions réfléchir concrètement à comment accueillir au mieux au sein de notre communauté. Et nous allons tout d'abord faire quelque chose qui me plaît généralement beaucoup, même si je ne l'ai fait qu'une fois pour le moment ici. Nous allons regarder quelles réponses les publicitaires nous propose face à cette question qui est, je le rappelle, comment accueillir au mieux au sein d'une communauté. Je vais donc vous passer une publicité, nous allons la regarder et on en reparle après. Maintenant, je vais vous raconter une histoire, en reprenant cette publicité. Une histoire inventée, bien sûr, que j'ai inventée, une histoire peut-être assez négative, mais pas si loufoque que ça. J'ai déjà vu des églises qui ressemblent à celles de mon histoire. Mais n'ayez pas peur, cette histoire, je le pense, j'en suis persuadé, ne reflète pas notre communauté. Je dirais même bien au contraire. Mais elle peut quand même être édifiante pour nous. Alors il était une fois un homme qui se posait des questions sur Dieu, On pourrait parler de lui comme d'un enfant dans la foi. Il cherchait un endroit pour avoir des réponses. Et il pensa alors naturellement, je vais aller dans une église un dimanche matin. Là, on pourra m'accueillir et me parler de Dieu. Là, je trouverai des adultes dans la foi pour me guider. Il prit alors son courage à deux mains, chercha une église et difficilement, pas après pas, il s'y dirigea. Pour l'accueillir, une porte, close, imposante, intimidante, et personne à l'entrée. Encore une fois, il rassembla son courage et il frappa à la porte. Et la porte s'ouvrit enfin. Et un pasteur vint l'accueillir, un sage dans la foi. Je suis pas aussi vieux. Et le pasteur se réjouit de la venue de cet enfant dans la foi, cet enfant en recherche. Le pasteur l'introduisit donc dans l'église où l'homme découvrit un monde à part, aux mœurs étranges, à la pensée différente, aux vêtements inhabituels. Il semblait totalement décalé dans ce décor. Les paroissiens, ça c'est vous, les paroissiens, intrigués par cette intrusion, regardaient avec méfiance ce petit bout du monde extérieur pénétrer dans leur communauté. La première chose qu'on enseigna donc à cet homme, ce fut les codes vestimentaires et de bonne conduite en vigueur dans l'église. Tes vêtements habituels, ton toit de la semaine, laisse-les dans le monde. Dans l'église, viens en habit du dimanche avec un comportement adéquat. Vint alors le long et difficile apprentissage spirituel, l'étude de la Bible sous la tutelle du pasteur. Mais toujours l'homme était seul dans son apprentissage, dans l'église, mais sans en faire partie vraiment. Il devait d'abord apprendre. Et l'homme, zélé dans sa recherche de Dieu, se donnait sans compter, même si parfois les remises en question font mal, et si parfois nous échouons. Devant ces échecs et ces difficultés, la déception visible prenait le pas sur les encouragements. La solitude de l'homme n'en était que plus grande. Le découragement et le désespoir n'étaient jamais bien loin. Mais l'homme persévéra. Les années passèrent. Il devint enfin un jeune adulte dans sa foi et il décida de demander le baptême afin de témoigner de sa foi, de ses progrès et d'intégrer réellement la communauté. Devant toute l'assemblée réunie et un pasteur très attentif, il témoigna de ce qu'il avait reçu. Il confessa avec fougue sa foi devant tous. Et tous purent voir les progrès qu'il avait accomplis. Tous purent être témoins de l'engagement qu'il voulait prendre avec Dieu. Le pasteur, très fier, regardait avec émotion celui qu'il avait enseigné pendant si longtemps. L'assemblée, respectueuse, digne, mais prudente, écoutait, observait, jugeait de la foi que l'homme présentait. L'homme passa par le rite du baptême, cette marque qui caractérise ceux qui témoignent de leur foi et s'engagent publiquement à vivre pour Dieu. Il en sortit heureux. Enfin, son long chemin de solitude et d'apprentissage s'achevait, car maintenant, l'ensemble de la communauté l'accueillait chaleureusement, comme un membre à part entière de l'Église du Christ. Et c'est la fin de cette petite histoire. Je vous rassure à nouveau, je pense que cette histoire ne correspond pas à notre communauté. Mais ça existe. Et une église qui fonctionne comme ça, c'est une église qui choisit de vivre en retrait du monde. Et elle envoie tous les signaux nécessaires pour ça. Une lourde porte close le dimanche matin, de la méfiance à l'égard de ceux qui y viendraient pour la première fois, de la déception et non pas de l'encouragement face aux difficultés de ses membres. Aucun accompagnement des gens dans leur souffrance et leur solitude. Heureusement, et je le pense réellement, notre communauté n'est pas comme ça. Ça fait maintenant 4 mois que mon épouse et moi sommes arrivés dans cette église, et une des choses qu'on a le plus appréciées, c'est l'accueil qu'on a reçu. Bon, c'est vrai qu'en tant que pasteur, ça fausse peut-être un peu la donne, on est quasi forcément bien accueillis, mais on sent dans cette assemblée une réelle envie d'accueillir, pas de rejeter, de s'ouvrir, pas de s'isoler. Mais malgré cet élan qui est déjà là, j'ai déjà eu plusieurs discussions ici avec des personnes qui se posent la question de comment pourrions-nous encore mieux accueillir. Eh bien, ce que nous apprennent les textes que nous avons étudiés et la publicité que nous avons regardée, c'est qu'il y a des points importants auxquels réfléchir. Nous avons vu dans notre texte que le partage pouvait se faire par des moments conviviaux, autour de la nourriture, par exemple. Et là, j'avoue que le traditionnel apéritif que nous partageons à la fin du culte, c'est pour moi juste génial. Parce que ça nous rassemble, ça nous pousse à rester un peu plus longtemps, ça nous permet de discuter, de faire connaissance, de développer nos relations et d'accueillir ceux qui viennent pour la première fois. Ça, c'est génial. Nous avons aussi vu dans notre histoire que la manière de nous comporter dans notre Église est un point primordial dans l'accueil. Ici, le dimanche matin, la porte n'est pas fermée, elle est ouverte. Ici, on ne vous regarde pas de travers avec méfiance lorsque vous venez pour la première fois, mais on vous accueille avec le sourire. Ici, on ne nous demande pas de changer de coiffure ou de vêtements avant de passer la porte. Il n'y a pas un videur qui contrôle à l'entrée. Non, nous voulons aimer l'autre tel qu'il est et non tel que nous voudrions peut-être qu'il soit. Tout comme le Christ l'a fait avant nous, pour nous. Et je vous encourage à persévérer encore dans ce sens. Nous avons aussi vu dans notre texte qu'accueillir ce monde peut se faire dans l'échange de culture. Et là, un champ immense de possibilités s'offre à nous. Nous pouvons accueillir les bonnes choses de la culture du monde. Et nous le faisons déjà régulièrement, mais peut-être est-ce encore un axe à développer. Faire bon accueil aux bonnes choses de la culture du monde. À l'art, la peinture, le graphe, la musique, le cinéma, le dialogue entre nos pensées. Sans renoncer à notre foi ou à qui nous sommes, mais paisiblement accueillir et dialoguer. Et aussi réorienter parfois cette culture, cette expression des dons que les hommes ont reçus, la réorienter vers celui qui est le créateur de toutes choses et qui nous accorde ces dons-là, notre Dieu. Nous avons encore vu dans cette publicité que l'aspect visuel de nos locaux est aussi important dans l'accueil des nouveaux venus. Ça peut sembler très superficiel, mais lorsqu'on veut inviter quelqu'un, on veut qu'il puisse se sentir à l'aise, même visuellement. C'est pour ça que, par exemple, chaque semaine, des membres de notre communauté font le ménage intégral dans ce temple. Et je les en remercie d'ailleurs infiniment parce que c'est quand même bien plus facile d'accueillir dans la propreté que dans le désordre et la saleté. Alors, merci à vous tous qui travaillez à ce service, un service pour lequel, je pense, un coup de main supplémentaire sera toujours très bien accueilli. Vous voyez, même dans le domaine de l'accueil, nous pouvons toujours chercher à progresser. Le Christ ou l'apôtre Paul sont pour nous des exemples de personnes qui, ils le disent eux-mêmes, se sont fait tout à tous, qui ont cherché à s'adapter au monde qui les entourait pour répondre aux besoins de ces gens et pour transmettre au mieux le message de l'Évangile. Alors, en cette nouvelle année qui commence, je souhaite que notre Église puisse accueillir, rayonner, attirer, enseigner, accompagner, encourager, tout ça à la fois. Et si nous avons cette volonté, à nous de simplement nous montrer créatifs dans les moyens à mettre en œuvre pour faire aboutir cette volonté. Que le Seigneur bénisse son Église et que Dieu nous aide à refléter au mieux son amour et sa volonté pour la seule gloire de Dieu. Amen.